toujours à l'écoute de Radio France Internationale et vous avez bien raison, il est minuit et demi, ici à Paris et à Khartoum, 22h30 en temps universel.
Afrique Soir.
Afrique Soir, dernière édition, avec vous Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
Bonsoir Stéphane, bonsoir à toutes et à tous. La guerre au Soudan et la bataille pour le contrôle de Khartoum. Bataille marquée par la première offensive majeure des forces du général Al-Burhan sur la capitale. Capitale dont une bonne partie est aux mains des paramilitaires de son rival, le général Hemeti. Nous irons aussi en République démocratique du Congo, où le calme est revenu ce vendredi après les combats de la veille dans l'ouest de Goma, la capitale de la province du Nord Kivu, théâtre d'affrontements entre les FARDC, des éléments des FDLR, des miliciens hutus rwandais. Retour également sur les déboires d'un dignitaire de l'ancien pouvoir au Sénégal, Ladj Diop, PDG de la LONAS à partir de 2020, puis ministre des Sports de 2023 à 2024 sous le président Macky Sall, est le premier ministre de l'ancien gouvernement placé en détention par les nouvelles autorités. Enfin, notre dossier consacré aujourd'hui à la nouvelle escalade dans la brouille entre l'Algérie et le Maroc. Alger, qui avait déjà rompu toute relation diplomatique avec Rabat, a décidé d'imposer un visa d'entrée aux Marocains. Pourquoi cette décision ? Élément de réponse à suivre. Pour la première fois donc, depuis le début de la guerre au Soudan, il y a 17 mois, l'armée a lancé jeudi une offensive majeure. Objectif : reprendre le contrôle de Khartoum, la capitale dont une bonne partie, je vous le rappelle, est aux mains des paramilitaires des forces de soutien rapide du général Hemeti. Au début de l'offensive de jeudi, l'armée du général Al-Burhan a repris 3 ponts stratégiques qui permettent l'accès à Khartoum. Les hommes du général Al-Burhan sont postés aux entrées de la ville et livrent bataille pour accéder au cœur de la capitale. Les précisions de Houda Ibrahim.
Appuyé par des frappes aériennes intenses, des tirs de drones et à l'artillerie lourde et moyenne, l'armée soudanaise continue sa progression pour le deuxième jour consécutif dans Khartoum. Objectif, chasser les FSR de la capitale et reprendre le palais présidentiel qu'elles occupent dès les premiers jours de la guerre en avril 2023. Les combats acharnés se sont concentrés aujourd'hui sur plusieurs axes, comme le pont de Halfaya, le quartier Fao, le marché central de Khartoum et le quartier Mogren à l'ouest du centre. Les positions des FSR dans le secteur de la raffinerie de pétrole El Gili à Halfaya, à Bahri, ainsi qu'au niveau du palais présidentiel ont été bombardées. Des blindés venant d'Umdurman se sont positionnés à Bahri entre autres. Les FSR ont répliqué à l'attaque en frappant les bases de l'armée à Umdurman où 6 morts sont tombés selon le ministère de la Santé suite à ces frappes. En février dernier, l'armée soudanaise avait réussi à reprendre des grandes parties d'Umdurman, ville adjacente intégrée dans la capitale. Les civils y sont revenus depuis et la vie a repris son cours. Désormais, 6 millions de personnes y habitent.
Voilà pour le récit de Houda Ibrahim. Notez par ailleurs que près d'une cinquantaine de personnes ont été tuées en 2 jours dans l'ouest du pays lors d'attaques attribuées aux forces paramilitaires du général Hemeti. Ce vendredi, les frappes d'artillerie des FSR ont tué également une trentaine de personnes et blessé des dizaines d'autres dans la ville d'El Fasher, capitale de la vaste région du Darfour Nord. Baisse de tension ce vendredi dans l'ouest de Goma et une partie du territoire de Nyiragongo au Nord Kivu en République démocratique du Congo. Un retour au calme après les affrontements de jeudi. Affrontements entre les FARDC, les forces armées congolaises et des éléments des FDLR dans le groupement Roussayo et ses environs. Des combats qui ont une nouvelle fois contraint la population, notamment celle des sites de Lushagala et Mungunga, à fuir. Le récit de Patient Ligodi.
Le calme est revenu, mais la situation reste tendue dans cette région du Nord Kivu. Jusqu'à présent, l'armée congolaise ne s'est pas encore exprimée sur cette offensive qui a secoué Roussayo et ses environs. De leur côté, certains responsables des groupes pro-gouvernementaux admettent qu'il y a bien eu un accrochage. Toutefois, ils cherchent à minimiser la portée de l'incident, affirmant qu'il s'agissait d'une simple confusion entre le commandement de forces armées de la RDC et certains éléments FDLR. Selon des sources au sein de ces mouvements, l'accrochage a débuté mercredi soir, mais ils assurent qu'il n'y a plus de tension majeure entre eux et les forces armées congolaises. L'incident s'est produit dans les zones de Roussayo et Saké, deux localités sensibles dans cette région en proie à des conflits. Cependant, la question des FDLR reste au cœur des discussions. Lors des réunions tenues ce mois de septembre entre les autorités congolaises et rwandaises, facilitées par l'Angola, des progrès ont été réalisés sur le plan harmonisé des neutralisations de ces forces. Mais sur le terrain, très peu de changements ont été observés dans les débuts de la mise en œuvre de ces plans. Kinshasa attend un geste concret de Kigali, notamment le retrait des troupes rwandaises présentes en RDC. Passion Ligodi, Kinshasa, RFI.
Au Tchad, le président Mahamat Idriss Déby a annoncé le remplacement de son directeur de cabinet civil. Actuel ministre de l'Environnement, Idriss Saleh Bachar succède à Idriss Youssouf Boy, jusque-là considéré comme le véritable bras droit du chef de l'État. Celui-ci est appelé à d'autres fonctions selon le décret présidentiel. Au Sénégal, il est l'un des premiers cadres de l'époque Macky Sall à faire face à des poursuites pour des délits économiques et le premier ex-membre du gouvernement à être écroué. Ministre des Sports, entre 2023 et 2024, Lat Diop a été inculpé et placé en détention jeudi soir pour des accusations en lien avec son poste précédent de directeur de la LONAS, la Loterie Nationale du Sénégal. Il dénonce une opération, une procédure sans fondement, à visée politique au moment où le gouvernement se lance dans l'opération, je cite, « reddition des comptes » alors qu'approchent les législatives du 17 novembre. Les précisions de François Mazet.
Ce sont les déclarations d'un ancien patron d'une société de paris sportifs en ligne qui ont mené Lat Diop en prison. Au cours de son audition par le nouveau pool judiciaire financier tout juste installé, Mohamed Dien a déclaré avoir remis plusieurs milliards de francs CFA à celui qui était alors le PDG de la LONAS. Des accusations repoussées par l'intéressé, désormais inculpé pour extorsion, détournement et blanchiment d'argent. Son avocat, Maître Eladj Diouf, parle de délation et dénonce la violation de la durée de la garde à vue, justifiant selon lui la nullité qu'il demandera dans les prochains jours. Selon lui, les infractions sont inexistantes, car aucune preuve matérielle de ces remises n'est apportée, aucun audit ni rapport de la LONAS cité. Il évoque une procédure politique au moment où les nouvelles autorités chargent leurs devancières pour la gestion du pays. Jeudi, le Premier ministre Ousmane Sonko a promis des enquêtes pour régler la corruption généralisée. Lat Diop préparait une candidature aux élections législatives à Guédiaouaï.
Une précision signée François Mazet. Puis je rappelle que l'ancienne majorité rejette les accusations de mauvaise gestion à son encontre. Elle comptait organiser une manifestation ce vendredi dans le cadre de la nouvelle alliance pour la transparence des élections législatives, l'a-t-elle, mais la manifestation a été interdite. Au Bénin, on apprend de sources concordantes ce vendredi que l'ancien garde des Sceaux Séverin Kenem est convoqué par les enquêteurs de l'affaire de tentative de coup d'État. Maître Séverin Kenem appartenait également au premier cercle du président Patrice Talon jusqu'à sa démission du gouvernement en avril 2023. Comme Oswald Omeki, il est réputé proche d'Olivier Bocco, l'homme d'affaires et l'ancien ministre des Sports qui sont toujours en garde à vue. Un mot à présent du projet de nouvelle constitution dévoilé la semaine dernière en Guinée, projet qui fait toujours débat. Dans l'opposition, le leader de l'UFDG, l'Union des Forces Démocratiques de Guinée, Sélou Dalein Diallo, fustige le texte qui traduit selon lui une volonté du général Mamadi Doumbouya de se présenter à la présidentielle à l'issue de la transition, une démarche contraire à ses engagements pris il y a 3 ans au moment du coup d'État qui a renversé le président Alpha Condé. Écoutez.
Il y a une volonté, naturellement, de confisquer le pouvoir par la junte. Elle avait délivré un discours qui avait rassuré la population, y compris moi-même, lorsqu'elle avait dit qu'elle allait mettre fin à l'instrumentalisation de la justice, au piétinement des droits et libertés des citoyens, qu'elle va organiser des élections et remettre le pouvoir à celui que le peuple élirait, aussi bien au niveau local, au niveau législatif qu'au niveau présidentiel. Elle s'était engagée donc à ne pas participer aux élections et tous ses engagements sont aujourd'hui violés. Il y a une volonté de restreindre les libertés publiques et de confisquer le pouvoir. C'est ça qui fait que moi je suis révolté parce que j'ai été peut-être naïf, j'ai cru Monsieur Doumbouya, colonel à l'époque, lorsqu'il a décliné ses objectifs et ses engagements. Mais aujourd'hui, je sens que c'est des engagements qui ont été trahis complètement.
Voilà les mots de l'opposant guinéen, Sélou Dalein Diallo.
RFI, Radio France Internationale.
Il est minuit 40 à Paris et place à notre dossier consacré à la nouvelle escalade dans la brouille entre l'Algérie et le Maroc. Alger, qui avait déjà rompu toute relation diplomatique avec son voisin marocain depuis 2021, a décidé jeudi d'imposer un visa à tous les étrangers détenteurs d'un passeport marocain. Rabat est accusé de tentative de déstabilisation et de déployer des agents de renseignement sionistes. Fin de citation. Alors pourquoi imposer ce visa maintenant alors que les tensions entre les deux voisins sont fortes depuis de nombreuses années? Élément de réponse avec Nadia Ben Mafoud.
Les relations ont toujours été tendues entre les deux États voisins, mais depuis la signature des accords d'Abraham entre le Maroc et Israël en 2020 et la normalisation de leurs relations, Alger a encore durci le ton. En 2021, l'Algérie rompt les relations diplomatiques avec Rabat et dans la foulée, elle ferme l'espace aérien à tous les avions civils et militaires marocains. Depuis, l'escalade entre les deux États s'était limitée à des échanges hostiles par discours interposés jusqu'à l'instauration de ces visas. Pas de rupture des relations diplomatiques avec Tel Aviv, collaboration sécuritaire et militaire maintenu ou encore présence d'un attaché militaire de l'État hébreu au Maroc, Alger dénonce la proximité qu'entretient le royaume avec Israël malgré la guerre menée à Gaza et désormais au Liban. Par ailleurs, Aboubakr Djamaï, spécialiste du Maghreb et professeur des relations internationales à Aix-en-Provence, voit aussi un lien avec le récent changement de position français sur la question du Sahara occidental. Depuis le 30 juillet, la France considère que le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine, un changement de position qui isole l'Algérie, selon Aboubakr Djamaï, et qui peut aussi expliquer la décision d'imposer ses visas aux Marocains.
Nadia Ben Mafoud, ajoutons également que l'Algérie accuse son voisin d'être à l'origine de réseaux à grande échelle de crimes organisés, de trafic de drogue et d'êtres humains, ainsi que d'actes d'espionnage sur son territoire. Alors pourquoi avoir pris la décision d'imposer des visas aux ressortissants marocains ? Quelle rhétorique utilise Alger en mettant en place cette mesure ? Élément de réponse avec Pierre Vermeren, historien des sociétés arabes et amazighes contemporaines à la Sorbonne, au micro de Nicolas Sûr.
On est sur des appareils d'État très opaques, hein, puisque la police comme l'armée sont au cœur des institutions algériennes et marocaines. Et bien sûr, toute communication de leur part leur laisse une parole unilatérale. Donc il est très difficile de l'extérieur de savoir ce qui se passe réellement. Deuxièmement, l'Algérie a toujours géré et utilisé la question des visas dans ses relations extérieures. La diplomatie du visa est quelque chose d'important. Ça souligne un cran supplémentaire dans la crise.
Alors, Alger utilise tout de même une rhétorique très particulière, hein, en invoquant la présence d'agents de renseignement sionistes. Est-ce parce qu'Alger sait que ce genre d'accusation fait recette dans les opinions publiques ? Ou y a-t-il des raisons d'inquiétude particulières et notamment la coopération sécuritaire qui existe entre le Maroc et Israël ?
Tout est vrai à la fois. On peut même ajouter, si vous voulez, que Alger, en insistant sur le fait qu'il y a cette coopération à bas bruit aujourd'hui maroco-israélienne et qui sous-entend que des agents israéliens utiliseraient des passeports marocains, d'ailleurs indépendamment de la bonne volonté de Rabat, puisque s'ils habitent en Israël, il n'y a pas une circulation qui puisse être contrôlée par Rabat pour ces personnes. Évidemment, Alger tente de capitaliser sur ces informations qui sont strictement impossibles à vérifier, mais qui soulignent seulement l'extrême tension et l'extrême violence des relations entre, d'une part, le Maroc et l'Algérie, entre l'Algérie, bien sûr, et Israël, et tout ça sous le regard des pays européens, d'une part, et des pays arabes, de l'autre. Donc oui, il y a une forme de mise en scène. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, mais encore une fois, c'est un cran supplémentaire.
Pourquoi cette nouvelle étape maintenant ?
D'abord, il faut dire que la campagne électorale vient de prendre fin en Algérie, que le président Tebboune a été réélu. Donc, c'est un de ses premiers actes de politique internationale. Ça donne une direction. Deuxièmement, l'activation de la guerre, si vous voulez, entre Israël et le Hamas au Liban réactive donc les tensions régionales, et c'est une occasion aussi pour l'Algérie, qui ne peut pas participer directement à ce conflit, de montrer qu'elle est vigilante, notamment contre les supposées interventions israéliennes. Et puis bien sûr, il y a aussi le dynamisme de Rabat, qui est extrêmement actif depuis la reconnaissance par la République française de la souveraineté sur le Sahara. Il y a bien évidemment là quelque chose qui fait réagir Alger et qui pousse à toujours dégrader davantage la relation avec le voisin. Comme l'Algérie est en difficulté sur ce terrain, eh bien, elle attaque sur d'autres.
Le décryptage de l'historien Pierre Vermeret dans le micro de Nicolas Sûr pour ce dossier consacré à la nouvelle escalade dans la brouille entre l'Algérie et le Maroc. Le Parlement tunisien a lui adopté ce vendredi un projet de révision de la loi électorale, projet contesté par la société civile qu'il considère comme un changement des règles du jeu à quelques jours de la présidentielle du 6 octobre. Le président Kais Saied est candidat pour un nouveau mandat. Président sortant élu démocratiquement en 2019 est accusé par ses détracteurs d'avoir fait régresser les droits et libertés en Tunisie depuis un coup de force à l'été 2021, coup de force par lequel il s'est emparé des pleins pouvoirs. Il est minuit 45 ici à Paris. Rappel de l'actualité dans le reste du monde.
Afrique Soir sur RFI, Zéphirin Quadio.
La violence au Proche-Orient et cette réaction de l'ambassade d'Iran à Beyrouth après la frappe aérienne israélienne contre le bastion densément peuplé du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth. Une dangereuse escalade qui change les règles du jeu, déclare l'ambassade iranienne à Beyrouth, Téhéran, qui promet aux auteurs de ce massacre un juste châtiment. Fin de citation. Israël qui a effectivement annoncé avoir mené une frappe aérienne sur le quartier général du Hezbollah à Beyrouth alors que son premier ministre Benjamin Netanyahou promettait à la tribune des Nations Unies de frapper le mouvement armé pro-iranien. Joe Biden, le président des États-Unis, demande au Pentagone d'ajuster si nécessaire la présence militaire américaine au Moyen-Orient. Retour à l'actualité africaine à présent en Libye. Va-t-on vers un règlement de la crise autour de la nomination du gouverneur de la Banque centrale ? Crise qui paralyse toute l'économie du pays depuis plus d'un mois. Jeudi, des parlementaires des deux camps se sont mis d'accord avec le soutien des Nations Unies sur la nomination de Naji Issa, déjà cadre de la Banque centrale. L'accord qui a reçu l'approbation du Conseil présidentiel doit être entériné au Parlement lundi. Explication Claire Fage.
L'accord entre deux représentants libyens, l'un du Parlement qui siège à l'Est et l'autre du Haut Conseil d'État équivalent du Sénat à l'Ouest, laisse espérer que la Banque centrale de Libye pourra enfin retrouver un gouverneur reconnu par la communauté internationale en la personne de Naji Issa, qui travaille déjà pour l'institution libyenne. Le fait que le Conseil présidentiel au pouvoir à l'Ouest ait depuis approuvé cet accord, sous réserve de contrôler la composition du Conseil d'administration de la Banque centrale, est plutôt de bon augure. Le temps presse car depuis qu'Abdelhamid Dbeiba, le premier ministre du gouvernement de Tripoli, a chassé l'ancien gouverneur Sadiq al-Kabir à la mi-août, personne n'a accepté ce coup de force, ni les dirigeants de l'Est libyen, contrôlés par le général Haftar. Ils ont en représailles stoppé la production pétrolière et donc privé la banque centrale de ses ressources. Quant aux banques étrangères, elles refusent d'échanger désormais des dollars avec l'institution financière libyenne, qui n'a donc plus de capacité à importer les produits de première nécessité dans un pays très dépendant de l'étranger. Le risque est désormais de voir se généraliser la contrebande en Libye.
Explication signée Claire Fage. Et puis ce rapport accablant pour la police kényane. Un document qui révèle que cette police est l'institution la plus corrompue du pays. Un constat établi par l'ancien ministre de la Justice et transmis en novembre 2023 au président William Ruto. Mais le rapport a fuité cette semaine dans la presse locale. Et ses conclusions sont sans appel pour la police, Gaëlle Lalex.
En 2022, la commission de lutte anticorruption saisit des biens d'une valeur de 27 millions de shillings, soit près de 190 000 euros. Leur propriétaire, l'inspecteur général Gabriel Moulay, les a accumulés en 3 ans, alors qu'il était agent de la circulation dans le comté de Kiambu, au nord de Nairobi. Son salaire ne s'élevait pourtant qu'à 20 000 shillings par mois, environ 140 euros. Des histoires comme celle-là, le rapport de David Maraga en regorge. L'ancien ministre de la Justice pointe du doigt le service de la circulation comme le plus corrompu de la police. Des pots de vin demandés aux automobilistes jusqu'à la participation active au trafic de marchandises illicites, c'est tout un système d'extorsion que le rapport met au jour. Système qui profite jusqu'au plus haut gradé, chaque officier ayant droit à sa part, explique le rapport. C'est aux racines même de la police que s'immisce la corruption. Selon David Maraga, favoritisme, clientélisme et népotisme régissent les recrutements qui bénéficient surtout à des proches de parlementaires. D'après le rapport, certains auraient déboursé jusqu'à 600 000 shillings, plus de 4 000 euros, pour intégrer les rangs de la police. Gaëlle Lalex, Nairobi, RFI.
Un retour à la normale à la tête de la Fédération tchadienne de football est-il possible ? L'instance nationale est sans bureau exécutif depuis plus de 2 ans. La Fédération internationale de foot s'impatiente et fait planer indirectement le spectre de sanctions. Elle vient d'ailleurs, en effet, d'adresser une lettre aux autorités tchadiennes et a désigné Amat Baba Amat comme secrétaire général par intérim, charge à ce dernier d'organiser une élection dans les plus brefs délais, une élection qui aurait dû avoir lieu en 2023, mais un bras de fer juridique a tout bouleversé. N'Djamena, les explications de Nesta Yamgoto.
La note de la FIFA au gouvernement tchadien ne précise aucune date. Elle indique simplement que l'élection d'un nouveau conseil à la tête de la Fédération tchadienne de football association doit se tenir dans un bref délai. Le courrier précise qu'il revient à Ahmad Baba Ahmad, homme politique et président de la Fédération tchadienne de lutte, d'assurer l'intérim et d'organiser cette échéance électorale. Cette élection à la tête de la Fédération tchadienne de football aurait dû se tenir il y a presque un an. Elle a été interrompue par une décision de la justice, car l'un des candidats était accusé d'avoir falsifier une des pièces de son dossier. Ce bras de fer juridique a ainsi privé le football tchadien de son exécutif, plongeant ainsi la crise qui dure depuis l'élection contestée de Mahmoud Mouktar Hamid en 2020 à la mise en place d'une commission de normalisation. Engagé dans les éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc, le Tchad est tenu de se conformer à l'injonction de la FIFA sous peine des nouvelles sanctions. Nestayam Goto, N'Djamena, RFI.
Plusieurs médias accusent les majors pétrolières d'opacité sur les rejets nocifs pour l'environnement liés au torchage. Le torchage est un procédé qui consiste à brûler sur place le gaz naturel issu de l'extraction du pétrole. Les émissions de CO2 liées au torchage de gaz naturel issu de cette extraction de pétrole ont atteint 1 milliard 400 millions de tonnes en 11 ans dans 18 pays d'Afrique et du Moyen-Orient, selon une enquête parue ce vendredi. Enquête menée par Mediapart et 13 médias internationaux. 5 hippopotames pris au piège dans une mare de boue d'une importante rivière asséchée dans le nord-est de la Namibie ont péri. Ces animaux faisaient partie d'un groupe de 130 hippopotames coincés dans une mare attenante à la rivière Tchobé, à la frontière avec le Botswana. Annonce faite ce vendredi par le ministère namibien de l'Environnement. Et on ouvre une page culture avant de refermer cette édition avec pour commencer l'Algérie et les rencontres cinématographiques qui se déroulent actuellement à Béjaïa. C'est à 250 km à l'est d'Alger. L'événement rassemble chaque année à l'automne des dizaines de cinéastes, producteurs et comédiens à l'affiche 35 films programmés par une association locale qui organise le seul festival indépendant de cinéma en Algérie. Reportage Faisal Metaoui.
Les artistes franco-algériens Amazir Kateb et Camélia Jordana ont animé l'ouverture des 19e rencontres cinématographiques de Béjaïa RCB, un festival indépendant organisé par l'association Projecteur. Hakim Abdelfattah, directeur artistique de ces rencontres, évoque des projections en avant-première.
Par exemple, il y a le film de Merzak Alouach Mekenwalou, ce n'est rien. Le film de Lamine Ammar Khouja, Houbla, des hommes libres de Tarzout Rezali, projeté en présence de Amazir Kateb, qui est protagoniste du film. Le film parle sur l'illustre écrivain Kateb Yassine. Le film La promesse de Iman de Nadia Zouaoui, qui nous vient du Canada. Walid Sahraoui, pour son film Je est une autre.
Cette année, le rappeur franco-algérien Pienso, ou Sofiane Zermani, a créé une bourse pour financer un projet d'écriture d'un scénario.
Ils avaient pendant très longtemps ce laboratoire de création et d'accompagnement de jeunes artistes, notamment de scénaristes, de réalisateurs, sur des premiers projets. J'ai demandé humblement comment on pouvait notre pierre à cet édifice-là. Là, on s'est mis d'accord sur un accompagnement, ce côté un peu pseudo-financier, mais beaucoup plus en termes de partenaires que de financement, autour de potentiels accompagnements sur des premiers projets de jeunes scénaristes.
Un débat sur les créateurs de contenu sur Internet et la critique cinématographique a été organisé. Aïssam Nasreddine, organisateur du débat.
On a l'aspect classique du métier de critique cinéma qui obéit à un certain mode de fonctionnement, un certain nombre de codes et de règles. Depuis l'émergence des plateformes digitales, il y a beaucoup de jeunes et beaucoup de gens vont vers ce média et créent un contenu. C'est dit à un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas un gap, il n'y a pas un écart entre ce qui est fait en termes plus académiques et ce qui est fait en termes de création de contenu. Notre ambition, c'est de porter une réflexion sur ça, de dire quels sont les codes, quels sont les fondamentaux.
La star, c'est le public. Un slogan des rencontres de Béjaïa. Latifa Lafère, une enseignante universitaire, est une habituée de l'événement.
Les rencontres, c'est un public d'abord. Un public en forme question et un public qui demande des choses, qui sait réclamer des choses.
Lors des rencontres de Béjaïa, des dizaines de jeunes ont assisté à un atelier sur l'adaptation des romans au cinéma. Faisal Metawi, Béjaïa, RFI.
Et on poursuit cette fois du côté de Lubumbashi en République démocratique du Congo où l'incontournable café jazz du Katanga fête ses 15 ans ce vendredi. Le café jazz est une structure qui a formé plus de 2000 jeunes artistes et produit en 15 ans pas moins de 137 spectacles. Denise Maéo nous invite ce soir à découvrir ce lieu incontournable de la scène culturelle de Lubumbashi.
Le café jazz a vu le jour en 2009 avec l'appui de l'Institut français de Lubumbashi. L'artiste Francesco Chical a son initiateur, s'en rappelle comme si c'était hier.
L'idée de faire le café jazz, c'était parce que je revenais de Kinshasa. Pendant deux semaines, je tournais. Il n'y avait que du playback en fait. J'en pouvais plus. Donc pour essayer de forcer les choses, donc j'ai pris la guitare lors du festival Lubumbi Pop, je me suis fait huer. Alors c'est là que je me suis dit, ok tiens, il faut vraiment qu'on mette en place un spectacle qui ramène que du live.
Le live, c'est une grande première pour Samy et Phil Esco, jeunes musiciens. Ce soir, il est sur scène avec sa chanson Makuta en Swahili, qui signifie l'argent.
Je passais à l'Arc de l'Étoile, je voyais beaucoup d'artistes, des grands artistes de Lubumbashi. Vraiment, ça m'inspirait beaucoup plus. Je me disais, moi aussi, dans les jours à venir, il faut que je preste à voilà, cet événement. Et aujourd'hui, je suis là, et je me sens bien ou quoi.
Narvin Dalla, une jeune artiste d'une vingtaine d'années, a déjà l'expérience du café jazz. Nous l'avons rencontré quelques heures avant le spectacle.
À travers le café jazz, j'ai appris vraiment l'art de la scène. Le contact avec le public. Déjà, je fais la première partie, donc les levées de rideau. Et ça sera Michael Jackson, Liberian Girl et Seigneur de Luz.
Cet événement a formé plusieurs centaines de musiciens et il permet la découverte des jeunes talents. Manu Iye, instrumentaliste du café jazz et qui joue la guitare classique, est fier de contribuer à la promotion de cet art.
Aujourd'hui, je peux dire dans les grands Katanga en général, 80% des artistes sont passés par café jazz. Et il y en a qui ont fait des noms. Je peux en citer Sando Marteau, Pisson, il y a même RJ qui est passé.
Pour les 15 ans de cet événement musical, une centaine de spectateurs a droit à une gamme variée de sonorités et de danses. Denise Maio, Lubumbashi, RFI.
Lubumbashi, terminus de ce tour de l'actualité africaine en compagnie ce soir d'Arthur Geoffroy, Simon Builbaudin et Esdras Ndikoumana. Merci à eux, merci de votre attention et restez à l'écoute dans deux minutes maintenant environ. Un nouveau journal sur la Radio du Monde.
Demain sur RFI, vous m'en direz des nouvelles avec Jean-François Cadet.
Singulière alchimie que celle du groupe nantais Ultra Vomit, alliance de la bombe métal et de l'humour. En 25 ans d'existence, les quatre nantais, qui revendiquent des textes d'une profonde affligeance, 16 tubes et une bouse, sortent leur quatrième album qui affiche la couleur, le pouvoir de la puissance.
Vous m'en direz des nouvelles ? Rendez-vous avec Jean-François Cadet, du lundi au vendredi à 15h10 TU.
RFI. RFI, la sélection du mois.
Age the Best et Deep Dundugis.
C'était pire avant que c'est bien pire après. En attendant,
Zofris Maracas et Louisa.
Laissez-moi embrasser la beauté de la vie au milieu du néant. Laissez-moi m'enivrer, laissez-moi m'exalter, laissez-moi chérir.
Mangane. Bon entendeur. Questa sera non ho più
paura di restare sola. Toute la sélection du mois à découvrir sur RFI Musique.
L'Afrique en jeu, sport en légende.
Silver-Henri Cissé.
La championne olympique Marie-Josée Pérec aux Jeux Olympiques de Sydney, terrifiée. Marie-Josée Pérec en 2000 en Australie, martyrisée. Marie-Josée Pérec en fuite pour se sécuriser. Toute la lumière sur cette incroyable affaire, mise en récit et analysée avec l'historien Nicolas Bancel.
L'Afrique en jeu, sport en légende, avec Silver-Henri Cissé, tous les samedis à 11h30 TU sur RFI.
Afrique, mémoire d'un continent, avec Penaï Traoré.
Dis-moi quelle coiffure tu portes et je te dirai ton statut social et ton appartenance ethnique. Les coiffures ancestrales africaines transmettaient des messages. Mais avec l'esclavage et la colonisation, le cheveu crépus est devenu un outil de domination. Pourquoi a-t-il longtemps été dévalorisé ? Nous en parlons ce dimanche.
Afrique, mémoire d'un continent.
Dimanche à partir de 8h10 TU sur RFI.